بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنكمل بفضل الله تبارك وتعالى اليوم دراستنا على هذه الرسالة المباركة، ألا وهي واجبنا نحو ما أمرنا الله به. Donc nous terminons aujourd'hui, avec la permission d'Allah Azza wa Jal, l'étude de cette épître magnifique qui est notre obligation ou nos obligations envers ce qu'Allah Azza wa Jal nous a ordonné. Et on avait cité la parole du Cheikh رحمه الله ويلدي إذا أمر الله العبد بأمر lorsqu'Allah عز وجل lorsqu'Allah تبارك وتعالى أردان son serviteur un ordre وجب عليه فيه سبع مراتب il lui est obligatoire de respecter sept choses الأولى العلم به الثانية محبته الثالثة العزم على الفعل الرابعة العمل الخامسة كونه يقع على المشروع خالصا صوابا السادسة التحذير من فعل ما يحبطه والسابعة الثبات عليه. Donc lorsque Allah عز وجل ordonne à son serviteur un homme, il lui est obligatoire de respecter ces sept choses. La première chose, العلم به, le fait de connaître cette chose. Et ça, on l'avait cité. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala t'ordonne quelque chose, tu te dois de connaître cette chose-là. Deuxièmement, le fait de l'aimer. Troisièmement, le fait d'avoir la ferme conviction de faire cet acte-là. Quatrièmement, faire cet acte-là. Cinquièmement, donc une fois que tu as appris, que tu as aimé, que tu as eu la conviction de le faire et que tu as œuvré, il faut que cette œuvre-là soit faite sincèrement pour Allah et en respectant la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sixièmement, at-tahdhiru min fi'li ma yuhbitu, le fait de prendre garde contre le fait de faire des choses qui vont venir annuler cette œuvre. Car on avait cité la semaine dernière que même si la personne elle a appris, elle a aimé, elle a eu la ferme conviction de faire cette chose-là, elle a œuvré et que son œuvre il a été fait sincèrement pour Allah et en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se peut que si elle fait des choses après cela, ça vienne annuler son action. Ça vienne annuler son action. Et parmi cela, on avait cité le shirk, le fait de commettre du polythéisme. On avait cité Ar-Riya, l'ostentation, etc. On avait cité ces choses-là au cours précédent. Et aujourd'hui, on voit le septième point. Al-Thabatu alay. Yani Al-Thabatu alay ala hadha al-amr ila al-mamat. Le septième des points, c'est le fait d'être raffermi sur cette chose jusqu'à la mort. C'est-à-dire que œuvrer sur cette chose jusqu'à la mort. Œuvrer sur cette chose jusqu'à la mort. Donc on va prendre un exemple. Allah tabaraka wa ta'ala, le premier ordre qu'il nous donne dans le Coran, c'est quoi? Le premier des ordres qu'Allah azza wa jalla nous donne, c'est Ya ayyuhan nas, u'budu rabbakum. Lorsqu'on lit le Coran, Surat al-Fatiha, on commence dans Surat al-Baqara, on arrive dans la deuxième ou la troisième page, le premier ordre qui vient, Ya ayyuhan nas, ô vous les gens, U'budu rabbakum, adorez votre Seigneur. Donc ici le musulman, Allah Azza wa Jalla lui a donné un ordre qui est de l'adorer. Premièrement, il doit savoir qu'est-ce l'adoration. Qu'est-ce que l'adoration? Et il prouve que, comme le dit Ibn Abbas, radiyallahu anhu, ou radiyallahu anhuma, qu'à chaque fois qu'Allah Azza wa Jalla nous ordonne l'adoration dans le Coran, l'adoration dans le Coran, c'est dans le sens de l'adorer uniquement. Donc la personne, elle sait c'est quoi l'adoration. Ensuite, elle aime cela. Ensuite, elle a la ferme conviction d'adorer Allah Azza wa Jalla. Ensuite, elle l'adore. Ensuite, elle l'adore sincèrement et en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, elle prend garde de ne pas faire des choses qui vont venir annuler ses adorations. Et ensuite, elle adore Allah Azza wa Jalla jusqu'à la mort. La même chose pour les interdits. Le premier des interdits qu'Allah Azza wa Jalla nous donne dans le Coran, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Et ne donnez pas à Allah Azza wa Jalla des égaux, des associés, alors que vous savez. C'est-à-dire alors que vous savez que c'est lui qui nous a créés. Donc la même chose, Allah Azza wa Jalla nous a interdit le shirk. Donc on se doit de le connaître. On se doit de connaître le shirk. On se doit d'aimer le tawhid. On se doit d'aimer l'unicité d'Allah Azza wa Jalla. On se doit d'avoir la ferme conviction de ne pas tomber dans le shirk. On se doit de tout faire pour ne pas tomber dans le shirk et d'œuvrer dans le tawhid. On se doit de s'écarter du shirk sincèrement pour Allah et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné, et on se doit de faire cela jusque la mort. Et on prend ça avec tous les ordres, tous les interdits. La prière, la même chose, la zakat, la même chose, l'obéissance aux parents, la même chose, le respecter le droit des voisins, la même chose, etc. Donc on voit bien l'importance de ces 7 points. Donc aujourd'hui on étudie ce 7e point. Ensuite il dit, rahimahullah, al-thabatu ala al-haq. Ici, c'est le fait d'être raffermi sur la vérité. Et le fait d'avoir peur et de craindre la mauvaise fin. De craindre la mauvaise fin. Parce que personne ne doit se sentir en sécurité. Personne, comme on le verra, ne doit se sentir en sécurité et de penser qu'il va mourir sur le tawhid et de penser qu'il va mourir sur l'obéissance. La personne doit craindre le fait de mourir sur la désobéissance ou mourir sur autre que l'islam. A'adana Allah wa iyyakum. Li qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, inna minkum man ya'malu bi'amali ahli al-jannah wa yukhtamu lahu bi'amal ahli al-nar. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certes parmi vous, certains œuvreront les œuvres des gens du paradis. Ils vont faire les œuvres des gens du paradis, mais à la fin de leur vie, ils vont œuvrer parmi les œuvres des gens de l'enfer, et ils iront en enfer. Et à la fin du cours, on expliquera cette parole, et on verra quelle est la situation de ces gens-là. Yani, il y a un signe dans ta vie, il y a un signe dans ta vie qui peut t'amener à ce hadith-là. C'est-à-dire que si tu fais une chose dans ta vie, comme on le verra à la fin, si tu fais une chose dans ta vie, tu peux craindre sous al-khatima. Comme on le verra, bi-idhnillah. Ensuite, il dit, وَهَذِهِ أَيْضًا مِنْ أَعْظَمِ مَا يَخَافُ مِنْهُ الصَّالِحُمْ. Et cela fait partie, comme le 6e point que l'on a cité la semaine dernière, des choses que les gens pieux ont peur. Les gens pieux ont peur de la mauvaise fin. Les gens pieux ont peur de la mauvaise fin. Il dit, et cela, yani, c'est quelque chose qui est rare au jour d'aujourd'hui. Et le cheikh dit ça à son époque. Que dire dans notre époque à nous? Wallahu a'lam. Et ici, il termine l'épître sur cela, rahimahullah ta'ala. Il dit, car ici la dernière phrase, elle nous renvoie à l'importance de ces 7 points. Car ici, il nous appelle à réfléchir, à méditer sur la situation des gens autour de nous. Comment sont les gens quant à ces obligations? Est-ce que les gens connaissent ces 7 points alors que cela fait partie de la base? Et si tu médites sur les gens autour de toi, tu vas voir à quel point tu as l'importance de connaître ces choses-là et de les enseigner, parce que la plupart des gens ignorent ces 7 points qui sont la base. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla t'ordonne quelque chose, tu dois respecter ces 7 points. Tu dois respecter ces 7 points. Donc le dernier point, qui est al-thabat alayhi, le fait d'être raffermi sur cela, nous prouve l'importance que la personne doit avoir dans le fait de demander sans cesse à Allah Azza wa Jalla d'être raffermi sur la vérité, d'être raffermi sur la guidée, d'être raffermi sur la droiture, et cela jusqu'à la mort. Al-amr al-sabi' wal-akhir مما يجب علينا نحو ما أمرنا الله به الثبات عليه أن يحرص الإنسان على الثبات على الحق والهدى والاستقامة على دين الله تبارك وتعالى إلى الممات. Car combien de personnes ont connu le حق, ils ont connu la vérité et ils ont dévié. Combien de personnes ont connu la droiture et ils ont dévié. Combien de personnes ont connu la vérité et ils ont dévié dans le faux. C'est pour cela que personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. C'est pour cela qu'on se doit. Et seul Allah Azza wa Jal peut t'aider à être raffermi sur cela. Et écoutez ce que Sufyan ibn Abdillah al-Thaqafi, rahimahullah, ou radiyallahu anhu, il a dit: Qultu ya Rasulallah, qulli fil Islam. Il a dit: ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dis-moi une chose dans l'islam dis-moi une parole que je pourrais dire dans l'islam que je n'aurais besoin de demander à personne d'autre que toi. Et il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, قول آمنت بالله ثم استقيم. Il lui a dit: j'ai cru en Allah, et ensuite tiens-toi sur la voie droite. وَهُنَا جَمَعَ عَلَيْهِ صَلَاةُ وَسَلَمْ بَيْنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ. Et ici on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a réuni entre eux l'ilm, la science, آمَنْتُ بِاللَّهِ, j'ai cru en Allah, j'ai dit la ilaha illallah, j'ai dit Rabbi Allah, mon Seigneur est Allah. Mais ensuite, est-ce que je me suis reposé sur mes lauriers? Est-ce que j'ai dormi? Est-ce que j'ai rien fait? Non. Avec l'ilm, avec la science, avec les paroles, qu'est-ce qu'il faut? Il faut œuvrer. Et ensuite, tiens-toi sur la voie droite. Et cela nous renvoie au verset dans Surat al-Fussilat, le verset 30, où Allah tabaraka wa ta'ala dit: Inna alladhina qalu Rabbunallah. Dans le sens du verset, certes ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah. Est-ce que ça suffit? Inna alladhina qalu Rabbunallah thumma istaqamu. Allah Azza wa Jalla dit: ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah, mais qui ensuite se sont tenus sur la voie droite, sur la droiture. Regardez, ils ont réuni entre quoi? Les bonnes actions, entre les paroles et les actes, la science et les actes. Regardez la fin, regardez la bonne fin de ces gens-là. Ceux qui vivent avec les paroles et les actes, l'ilm wal amal, la science et l'application de cette science, regardez ce qu'Allah Azza wa Jalla dit à leur sujet. Tatanazzalu alayhim al malaika. Les anges descendent sur eux à leur mort. Au moment de leur mort, les anges descendent sur eux. Et qu'est-ce qu'ils leur disent, les anges? N'ayez pas peur. Et comme les savants ont expliqué, n'ayez pas peur de ceux que vous allez rencontrer, parce que ça sera que du khayr. Ne soyez pas affligés, ne soyez pas tristes, comme les savants ont expliqué, pour ceux que vous avez quittés, vos familles, vos bien, vos familles, vos enfants, parce qu'ils sont sous la protection d'Allah Azza wa Jalla. Allah takhafu wa la tahzanu. وأبشروا بالجنة. Et ayez la bonne annonce du paradis. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Et ayez la bonne annonce du paradis qu'il vous était promis. Subhanallah al-Azim. Qui veut, au moment où tu meurs, dans cet état de crainte, cet état de souffrance, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il agonisait, il disait La ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat. Il disait La ilaha illallah, certes la mort contient ses souffrances, certes la mort contient ses affres. Imagine à ce moment-là, tes enfants, ta famille, tes biens, ta vie, aller vers changer de monde, changer de vie. À ce moment-là, les anges descendent et te disent لا تخاف ولا تحزن وأبشر بالجنة التي يعني كنت توعد. À ce moment-là, les anges te disent ne sois pas triste, n'aie pas peur, et la bonne annonce, la bonne nouvelle du paradis qui t'était promis. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla dit نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente comme dans l'au-delà. Allah Azza wa Jalla, il t'a protégé dans cette vie, il protégera ta famille après toi et il te protégera dans l'au-delà. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ceux que vous réclamerez. نزلًا من غفور رحيم, un lieu d'accueil de la part d'un très grand pardonneur, d'un très grand miséricordieux. Donc regardez l'importance de ce septième point, c'est de rester sur cette adoration, sur cet ordre, il a le mamat, jusqu'à ce que tu vas mourir. Et l'être humain a tendance à se relâcher. On a tendance à se relâcher. Il y a des périodes où notre foi elle est élevée, où on apprend le Coran, où on œuvre, où on fréquente les mosquées, où on fait les efforts. Et il y a d'autres périodes, subhanallah al-azim. Et des fois d'une semaine à l'autre, des fois d'un jour à l'autre, des fois d'une heure à l'autre. Regardez comment la foi, elle peut monter, elle peut atteindre les montagnes et elle peut descendre jusqu'à disparaître et ne rien rester. C'est pour cela que le musulman doit faire tous les efforts afin de rester sur l'istiqama, afin de rester sur la droiture. فيحرص الإنسان على الاستقامة والثبات على دين الله تبارك وتعالى. Donc la personne doit préserver, doit donner toute son importance au fait de rester sur la droiture, au fait d'être raffermi sur la religion d'Allah Azza wa Jalla. Et c'est quoi le plus grand moyen pour être raffermi sur l'istiqama? Pour celui qui était là cet été, on avait fait un séminaire sur ce point-là. On avait dit 10 moyens pour rester sur la droiture. Le premier moyen, c'est l'istihana, le fait de demander à Allah, tabaraka wa ta'ala, seul Allah Azza wa Jal peut t'aider. Seul Allah Azza wa Jal peut t'aider sur le fait de rester sur sa religion. Le fait de demander sans cesse à Allah tabaraka wa ta'ala de te raffermir. يقول الله عز وجل يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله عز وجل dit dans le sens du verset, Allah a fermé les croyants par une parole ferme. Et les savants ont expliqué que cette parole ferme c'est quoi? لا إله إلا الله. Allah عز وجل a fermé les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans l'au-delà. Et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes, et Allah Azza wa Jal fait ce qu'il veut, et Allah tabaraka wa ta'ala fait ce qu'il veut. Yaqulu Allah Azza wa Jal, wa'bud rabbak, hatta ya'tiyakal yaqin. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Et si la certitude c'est le mort, c'est l'enfer, c'est la mort, pardon. La certitude c'est la mort. C'est-à-dire que tu adores Allah Azza wa Jal jusque quand? Jusque tu meurs. Est-ce que tu sais quand est-ce que tu vas mourir? Non. Donc adore Allah Azza wa Jal sans cesse. et tu te dois de craindre de mourir en ayant une mauvaise faim. فيجب على المسلم أن يخاف من سوء الختام من سوء الختام. يقول صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. Écoutez ce hadith, dans le hadith dans Bukhari wa Muslim, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il arrive que l'un d'entre vous œuvre, comme œuvrent les gens du paradis, jusqu'au moment où l'espace d'une seule coudée le sépare du paradis. La personne, elle fait des œuvres parmi les œuvres du paradis, jusqu'à ce qu'il soit très proche du paradis. Mais alors, la chose écrite intervient. Ce qu'Allah Azza wa Jalla avait décrété intervient et il se conduit comme une personne de l'enfer et il entrera en enfer. C'est pour cela que la personne doit craindre. Doit craindre cette mauvaise fin. وَلِهَذَا كَانَ السَّلَفْ يَخَافُونَ مِنْ سَوَابِقْ وَالْخَوَاتِمَ. C'est pour cela que les plus prédécesseurs, ils avaient peur de deux choses. السَّوَابِقْ والخواتم. السوابق c'est quoi? C'est ce qu'Allah Azza wa Jalla a décrété pour toi. Ce qu'Allah Azza wa Jalla a écrit pour toi. C'est-à-dire que avant que tu n'aies, Allah Tabaraka wa Ta'ala a déjà écrit si tu es des gens du paradis ou des gens de l'enfer. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il te laisse le libre arbitre. Allah Azza wa Jalla, il te laisse le choix de prendre le chemin du paradis ou le chemin de l'enfer. Mais Allah Azza wa Jal, il est tellement parfait, sa science est tellement infuse et parfaite, qu'il sait déjà ce que tu vas choisir. Donc avant de te créer, Allah Tabaraka wa Ta'ala sait déjà si tu vas suivre le chemin du paradis ou le chemin de l'enfer. Donc les peuples prédécesseurs, ils avaient peur de ceux qui étaient déjà écrits. Yani maqadirul khala'iq, ce qu'Allah Azza wa Jal avait écrit pour ces créatures. أمر معين على العبد لا يدري العبد الذي سبق. Une chose qu'Allah تبارك وتعالى a écrit pour le serviteur, dont le serviteur en est ignorant. والخواتم, et ils avaient peur à l'idée de la fin. يعني الخواتم يعني ما يختم له في أيامه الأخيرة ولحظاته الأخيرة التي يودع فيها الدنيا. Ils avaient peur du khawatim, des fins. C'est-à-dire de comment tu vas terminer ta vie au moment où tu vas abandonner cette dunya. Le moment où tu vas abandonner cette dunya, comment vas-tu l'abandonner? Comment vas-tu l'abandonner? Et des exemples, il y en a des centaines et des centaines de gens qui ont fait du mal, qui ont œuvré comme les gens de l'enfer, et à la fin de leur vie, ils se sont repentis. Allah Azza wa Jalla leur a pardonné leurs péchés. Et ils sont morts sur la droiture. Et des gens qui ont œuvré toute leur vie dans le bien, et à la fin de leur vie, ils sont tombés dans la désobéissance, dans l'égarement, dans le sectarisme, et ils sont morts sur cela. C'est pour cela qu'il est important de prendre conscience que la personne n'est à l'abri de rien, et que seul Allah Azza wa Jalla tourne les cœurs. Ton cœur est entre eux. Ton cœur est entre les doigts d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il les tourne comme il le veut. Il les tourne comme il le veut. يقول صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. Celui dont le prophète صلى الله عليه وسلم dit, celui dont la dernière parole dans cette vie est la ilaha illallah, entrera au paradis. ولهذا يحتاج المسلم دوما وأبدا أن يسأل ربه تبارك وتعالى أن يثبته وأن لا يزيغ قلبه. C'est pour cela que le musulman a besoin tout à chaque instant de sa vie, à chaque moment de sa vie, il a besoin de demander à Allah تبارك وتعالى de le raffermir sur la religion et de ne pas dévier son cœur. ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا الآية Allah Azza wa Jalla dit dans le sens du verset, ô notre Seigneur, Rabbana la tuzigh qulubana, ne dévie pas nos cœurs après nous avoir guidés. Ne dévie pas nos cœurs après nous avoir guidés. Aujourd'hui, peut-être que certaines personnes font partie des pires des créatures et que demain, elles seront parmi les meilleures des créatures. Un grand exemple dans le Coran qu'Allah Azza wa Jalla nous a cité. Des gens qui font partie des pires créatures. Et en quelques instants, ils sont devenus les meilleurs des créatures. Sahara du Pharaon. Les sorciers que le Pharaon avait réunis devant Moussa. Le sorcier, dans cette vie, il fait partie des pires créatures. Des pires créatures. Le sorcier, il fait partie des pires créatures. Et attention, le sorcier peut se déguiser. Alors, pas comme dans des dessins animés qui montrent aux enfants, un déguisement du vertueux. Le sorcier, des fois, il se fait appeler Taleb. C'est beau, Taleb. Il se fait appeler le frais. Il se fait appeler le sage. Il se fait appeler un tel ou un tel. Mais le problème, c'est que les actes qu'il fait, il fait des actes qui font sortir la personne de l'islam. Et bi'idhnillah, on aura l'occasion, inshallah, d'étudier ce sujet en détail. Parce que malheureusement, c'est quelque chose de connu auprès des gens. Lorsque la personne elle est malade, certaines personnes vont voir le sage ou le frère, le marabout, le peu importe le nom qu'on lui donne. Et il écrit des choses, il les enroule et il dit, tu le poses dans le dos, ou tu le mets dans la ceinture, ou tu le mets dans les mains, ou tu le mets dans l'endroit, peu importe. Et la personne, son cœur va s'attacher à ce petit sachet, son cœur va s'attacher à ce talisman, son cœur va s'attacher à cette écriture, et son cœur va délaisser le fait qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est lui le guérisseur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il y avait quelqu'un qui était malade, qu'est-ce qu'il disait? Est-ce qu'il écrivait quelque chose et il lui donnait? Non. Allahumma rabban nas, mudhib al-ba's, ishfi anta shafi. Oh Allah Azza wa Jal, Seigneur des gens. Allah Azza wa Jal, c'est le Seigneur de tout l'univers. Celui qui fait partir le mal guérit, car c'est toi qui guéris. Pourquoi passer par 4 chemins, par 10 chemins, par 20 chemins, alors que on a un Seigneur qui guérit? On a un Seigneur qui guérit. La même chose, celui qui n'arrive pas à avoir d'enfant, celui qui n'arrive pas à se marier, celui qui n'arrive pas à trouver un travail, peu importe. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَلِي. Allah Azza wa Jal dit, et lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, je suis proche. Allah Azza wa Jal, il est proche de ses créatures par sa science. أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. Je réponds à celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Donc cette règle doit être appliquée. Lorsque tu as besoin de quelque chose, de te marier, d'avoir des enfants, la guérison, peu importe ce que tu as besoin. Et l'être humain, il y a des besoins, on a des besoins. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ. Allah, baraka wa ta'ala, il est as-samad. Celui vers toutes les créatures lorsqu'elles ont besoin, elles lui demandent. Allah Azza wa Jalla, il répond à l'invocation de celui qui l'invoque lorsqu'il l'invoque. Donc ici, on a besoin d'être raffermi sur la religion. C'est pour cela que pour être raffermi sur l'istiqama, sur la droiture, on se doit de respecter deux choses. Première chose, demander sans cesse l'aide d'Allah. Mais une fois que tu as demandé l'aide d'Allah, mujahadatun nafs, il faut que tu fasses des efforts. C'est comme le matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les matins après la prière du Fajr, qu'est-ce qu'il disait? Après ses invocations, après la prière, il disait Allahumma inni as'alu ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Oh Allah, je te demande une science profitable, une bonne subsistance et une œuvre acceptée, agréée. Les savants, ils disent, premièrement, tu invoques par cette invocation tous les matins. Mais celui qui demande à Allah une science profitable, il n'ouvre pas un livre de la journée. Il n'écoute pas un cours de la journée. Il ne fait pas les efforts pour apprendre.
Ou celui qui demande à Allah une bonne subsistance, mais ne fait pas les efforts pour aller travailler. Il dort toute la journée. Il ne fait pas les efforts pour gagner son reste. Ou la personne qui demande à Allah une œuvre acceptée, mais elle n'œuvre pas. L'un ne va pas sans l'autre. Donc ici, tu demandes à Allah Azzawajal et tu fais les efforts pour cela. Tu demandes à Allah de te guider et de te raffermir sur la religion jusqu'à ta mort, et tu fais les efforts pour cela. C'est pour cela que Umm Salama, radiallahu anha, qui était notre mère, la femme du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle nous dit que parmi les du'as que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait le plus souvent, c'était « Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. » Ô toi qui tournes les cœurs, ô toi qui tournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Parmi les du'as que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait le plus. Donc ici, cette invocation, tout le monde doit la prendre et tout le monde doit invoquer. Qalat, qultu ya rasulallah, ma akthar du'a. Et elle disait, ô messager d'Allah, je te vois souvent dire, ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui tournes les cœurs, raffermis mon cœur sur la religion. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire, ya Umm Salama, ô Umm Salama, il n'y a pas un être humain, ou dans une autre version, certes les cœurs sont entre les deux doigts, parmi les doigts d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Il les fait tourner comme il le veut. Nos cœurs sont entre les doigts d'Allah Azza wa Jal. Et ici, ce hadith nous prouve l'attribut d'Allah, qu'Allah Azza wa Jal a des doigts. Mais Allah tabaraka wa ta'ala dit laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Alors, il ne ressemble pas à ces créatures. Donc, les doigts d'Allah ne sont pas comme nos doigts. Mais nous affirmons qu'il y a des doigts. Les mains d'Allah ne sont pas comme les nôtres. Mais nous affirmons qu'il y a des mains. La face d'Allah Azza wa Jal n'est pas comme la nôtre. Mais nous affirmons qu'Allah tabaraka wa ta'ala a ses attributs. Nous affirmons tous les attributs comme ils sont venus dans le Coran et dans la Sunna, sans les déformer, sans les renier, sans les faire ressembler, sans les nier. Ni on les nie, parce que certains ils ont dit, par peur de faire ressembler Allah à ses créatures, on va renier ses attributs. Pour pas tomber dans un extrême, ils sont tombés dans un autre extrême. Non. Les gens de la Sunna et du consensus on affirme les attributs d'Allah Azza wa Jal comme ils sont venus dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également, dans les deux authentiques, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait dans ses invocations, Allahumma laka aslamt, ô Allah, je me soumets entièrement à toi. Wa bika amant, et à toi j'ai cru. Wa alayka tawakkalt, et en toi je place ma confiance. Wa ilayka anab, et en toi je reviens. Wa bika khasamt, et en toi je polémique. Allahumma inni a'udhu bi'izzatik. Ô Allah, je cherche refuge auprès de ta puissance. La ilaha illa ant, il n'y a aucune divinité qui mérite d'être adorée en dehors de toi. Contre le fait de m'égarer. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il invoquait Allah azza wa jal contre le fait d'être égaré. Et ensuite il disait sallallahu alayhi wa sallam, Anta al-hayyu alladhi la yamut. Tu es le vivant, celui qui ne meurt jamais. Wal jinn wal ins yamutun. Alors que les djinns et les êtres humains meurent. Donc la personne, elle ne doit pas invoquer autre qu'Allah, puisque tout ce qui est en dehors d'Allah meurt. Mais qui est le seul qui peut te préserver contre l'égarement? C'est Allah tabaraka wa ta'ala, puisque c'est lui le vivant, celui qui ne meurt jamais. Wa kana fi kulli marra yakhruju fiha min bayti yaqul sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma inni a'udhu bik an adhil aw udhal aw azil aw uzal aw adhlim aw udhlam aw ajhal aw yujhal 'alayya. Et à chaque fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortait de chez lui, qu'est-ce qu'il disait? À chaque fois qu'il sortait de chez lui, Il levait sa tête au ciel. Et les savants ont expliqué pourquoi il levait sa tête au ciel. Cela prouve qu'il prenait conscience qu'Allah le surveillait. À chaque fois que tu sors de chez toi, prends conscience qu'Allah te voit. Où vas-tu? Allah le sait. Que vas-tu faire? Allah Azza wa Jalla va t'interroger. Que vas-tu dire? Allah Tabaraka wa Ta'ala va t'interroger sur tout ce que tu vas dire et tout ce que tu vas faire. Et là, tu peux voir que l'être humain et le musulman, des fois, quand il sort, sa sortie, elle est de deux types. Des fois, il va sortir vers la mosquée. Inch'Allah, il va être en condition. Il va sortir vers la mosquée, il va être apaisé. Mais quand il sort pour aller au travail, c'est une autre personne. Quand il sort pour aller au travail, subhanallah, c'est peut-être pas, il est en retard, il est pressé, il n'est pas content, il n'a pas envie d'aller au travail. Donc là, tu le trouves dans sa voiture, en train d'insulter tout le monde. La moindre priorité, la personne, elle ne va pas te laisser, ça y est. Subhanallah. Et la personne, à la maison, elle est calme, à la mosquée, elle est calme, souriante, il rentre dans la voiture, un lion. Il rugit. Et là, et subhanallah. Donc attention, la personne, peu importe que tu sors pour ton din ou que tu sors pour ta, yani pour ta dunya, n'oublie pas. Et le prophète, c'est ce qu'il disait. Allahumma inni, oh Allah, je cherche protection auprès de toi. Contre quoi, avant de sortir? Contre quoi tu dois chercher protection? Contre le fait, il y a des contre le fait que je m'égare, ou que j'égare quelqu'un. C'est-à-dire que je suis la cause d'égarer quelqu'un. Contre le fait de glisser, ici, glisser du ba'ala, al-azil fil ma'asiyah. Al-azil ou uzel, contre le fait de commettre un péché ou que je sois la cause que quelqu'un commette un péché. Ou ajhal ou azil ou uzel, ou aghlim ou uzlam, contre le fait de commettre une injustice ou que je sois la cause pour le commettre. Que je sois la cause, ou que moi-même je commette une injustice, ou qu'on me commette une injustice à moi-même. Ou ajhal ou yujhal alayhi. Que je fasse un acte d'ignorance, ou qu'on me fasse subir un acte d'ignorance. Regardez ces quatre choses sur le fait que le prophète seul demandait la protection avant de sortir. Contre le fait d'être égaré, contre le fait de tomber dans le péché, contre le fait de commettre l'injustice, et contre le fait de commettre un acte d'ignorance. Donc la personne doit se remémorer cela. Et mais pourquoi on a cité ces invocations? C'est pour prouver à quel point les musulmans doivent sans cesse demander à Allah tabaraka wa ta'ala d'être guidé, de ne pas être égaré, et surtout de faire les causes. Le prophète lui faisait les causes, alayhi salatu wa salam, faire les causes pour rester sur la droiture. Ensuite, le dernier point, ou l'avant-dernier point que nous allons citer pour terminer, conclure cette épître, c'est qu'on a vu que la personne peut faire les œuvres parmi les œuvres du paradis et à la fin de sa vie œuvrer et tomber parmi les gens de l'enfer. Et ça, ça fait peur. Mais les savants nous ont donné un signe dès maintenant. À toi de te poser la question. Si tu fais partie des gens que nous allons citer, tu dois avoir peur. Parce que ce hadith, yani, est pour toi. Par contre, si tu fais partie de la deuxième catégorie, c'est un bon signe. Et si tu restes comme ça toute ta vie, tu n'auras aucune crainte ce jour-là. Écoutez bien. وَمِنْ ذَلِكُمْ أَنْ يَحْرِصَ دَوْمًا وَأَبَدًا عَلَى إِصْلَاحِ سَرِيرَتِهِ وَإِصْلَاحِ بَاطِنِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ. Écoutez ce que Cheikh Abd al-Razzaq Allah dit ici. Il dit, c'est pour cela. Donc après avoir cité l'importance de rester sur la droiture et de demander à Allah Azza wa Jal de t'aider à rester sur la droiture et de faire les efforts pour rester sur la droiture. Il dit, c'est pour cela que la personne doit sans cesse réformer son intérieur entre lui et Allah Azza wa Jal. Deux choses. Les choses que tu fais en public. Parce que généralement, beaucoup, en public, on a une bonne apparence. Que ce soit une apparence physique, que ce soit des bonnes paroles, que ce soit un bon comportement, mais en secret. Quand il n'y a que nous et Allah Azza wa Jalla, des fois le comportement change. Des fois il y a un relâchement total. Quand tu es à la mosquée, tu as un visage. Quand tu es devant ton épouse, tu as un visage. Devant tes enfants, tu as un visage. Devant les frères, devant les sœurs, tu as un visage. Mais quand il n'y a que toi et Allah Azza wa Jalla, c'est un autre visage. Et ça, chacun doit se remettre en question. Chacun doit se remettre en question. Parce que regardez ce qu'il dit. ولهذا قال أهل العلم لا يعرف أن من صلحت سريرته وحسنت عقيدته بينه وبين الله أن يختم له بخاتمة سيئة. Il dit parce que les savants disent, il n'est pas connu. Écoutez bien cette bonne annonce. Il n'est pas connu que celui qui a réformé son extérieur, comme on l'a dit devant les gens, et son intérieur, sa croyance profonde entre lui et Allah. Celui qui est pareil devant les gens comme entre lui et Allah, qui obéit à Allah en public comme en secret, il n'est pas connu que celui-là ait une mauvaise fin. Il n'est pas connu que celui-là ait une mauvaise fin. Si tu adores Allah, si tu crains Allah en public comme en secret, il n'est pas connu. Il n'est pas connu que ces gens-là ont une mauvaise fin. Ont une mauvaise fin. C'est pour cela que Abd al-Haq al-Ishbili, rahimallah, qu'est-ce qu'il disait ? Il disait « وَعَلَمْ أَنَّ سُوءَ الْخَاتِمَةِ أَعَذَنَ اللَّهُ مِنْهَا لَا يَكُونُ لِمَنْ اِسْتَقَامُ ظَاهِرُهُ وَصَلُحَ بَاطِنُهُ » Il dit et sache que la mauvaise fin, qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve tous, la mauvaise fin, elle n'est pas pour celui qui a été droit dans son extérieur comme dans son intérieur. Ça ne touche pas ces gens-là. Celui qui a toujours été droit à l'extérieur et à l'intérieur, lorsqu'il est entre lui et Allah Azza wa Jalla en public, il est droit, il mourra sur cela. Parce que toute sa vie, il a passé comme ça. إِنَّمَا تَكُونُ Donc ça, c'est la première catégorie. Donc celui qui fait partie de cette première catégorie, bonne annonce à lui. Mouchara, bonne annonce à lui. Par contre, la deuxième catégorie, celle à qui la mauvaise fin peut être destinée. وَإِنَّمَا تَكُونُ لِمَنْ كَانَ لَهُ فَسَادٌ فِي الْعَقْلِ أَوْ إِصْرَارٌ عَلَى الْكَبَائِرِ وَإِقْدَامٌ عَلَى الْعَظَائِمِ فَرُبَّمَا غَلَبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى يُنْزِلَ بِهِ الْمَوْتِ أَوْ يَقْتُلَ. Il dit, mais quant à celui qui perdure, c'est-à-dire qu'il a une face, mais à côté, il continue dans les grands péchés. Il continue, il est corrompu dans une certaine manière. Il adore Allah et il désobéit. Il adore et il désobéit. Il y a des grands péchés sur lesquels il a continué, il n'a pas cessé. Même s'il se repent, certainement il se repent de ses grands péchés, mais il retombe dedans. Il retombe dedans, et bien il est possible qu'à la fin de sa vie, et bien il va commettre un péché. Il va commettre ce grand péché et il n'a plus le temps de se repentir. Ou ses passions qui l'ont dominé toute sa vie, à ce moment-là, elles auront pris cette victoire. Et subhanallah, on peut le voir, comme on l'a cité tout à l'heure. Des fois, inshallah, t'es motivé. Et des fois, ça coule totalement. Ta foi, elle est haute, ta foi, elle est basse. Mais imagine que tu meurs dans ces moments où tu fréquentes plus la mosquée, où tu lis plus le Coran, où tu n'adores plus Allah, où tu as des mauvaises paroles, où tu as... Imagine que ta mort, elle tombe pendant ces moments-là. Donc c'est pour... Et ça fait partie des mauvaises fins. C'est possible que la personne, cette catégorie de personnes, qui adore Allah, certes, mais qui lui désobéit par les grands péchés, il est possible qu'il va commettre un grand péché et il n'aura pas le temps de revenir à Allah. Tabaraka wa ta'ala. Et à ce moment-là, il y a un shaytan, car n'oubliez pas que cet ennemi qui est shaytan, lui son but c'est cela, son but c'est de, lui il ne sait pas quand est-ce que tu vas mourir, donc son but c'est de te faire tomber dans ces moments-là pour espérer que tu vas mourir à ce moment-là, c'est pour espérer que tu vas mourir à ce moment-là. Donc voilà pour ce septième point, pour l'importance de soigner son apparence, car l'apparence est importante. et soigner aussi son intérieur. Car l'intérieur est plus important que l'apparence. Parce que si tu soignes ton intérieur, ton apparence va suivre. Ton apparence, automatiquement, elle va retranscrire ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ce n'est pas parce que tu as soigné l'apparence qu'automatiquement, tu auras soigné l'intérieur. Donc c'est pour cela que le musulman, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le disait, « Waslul sakhima taqalbi » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait à Allah azza wa jalla d'enlever toute cette haine, l'animosité de son cœur. Le musulman doit y aller craindre Allah tabaraka wa ta'ala, sans cesse revenir à Allah azza wa jalla, demander à Allah tabaraka wa ta'ala d'être raffermi sur cela, faire le maximum d'efforts pour être raffermi, invoquer Allah azza wa jalla sans cesse. Et on termine ce chapitre par rappeler les sept points, d'accord, cette épître, comme on l'a cité, qui fait partie des premiers épîtres à apprendre dans l'aqida. Les premières choses à apprendre dans le tawhid, c'est ça. Lorsqu'Allah azza wa jalla t'ordonne un ordre, Allah t'ordonne un ordre, tu dois respecter sept choses. La première, al-ilm bih, la science. Tu te dois de connaître ce qu'Allah azza wa jalla t'a ordonné. Deuxièmement, mahabbatu, tu te dois de l'aimer. Troisièmement, al-azm ala al-fi'l, la détermination quand on fait de rester, quand on fait de faire cet acte. Quatrièmement, al-amal, tu œuvres. Quatrièmement, que cette œuvre soit faite sincèrement pour Allah et selon, en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sixièmement, prendre garde à ne commettre aucun acte, à ne commettre aucun acte qui vont venir annuler cela, cet acte. Et septièmement, le fait d'être raffermi sur cela, sur cet acte et sur la religion. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Donc inshallah les cours ils reprendront au mois de janvier, d'accord? On reprendra au mois de janvier inshallah les cours et on étudiera un livre magnifique de l'imam Al-Munziri رحمه الله qui s'appelle كفاية المتعبد. كفاية متعبد, en fait c'est un livre, subhanallah, où l'imam Al-Munziri, il avait un frère. Et regardez, entre frères. Son frère, il lui a demandé quelque chose. Il lui a demandé un service. C'était quoi son service? De lui écrire un petit livre sur Fada'ilul A'mal. Les Fada'ilul A'mal, les mérites des actions. Il lui a dit un livre court, quelque chose de court, sans les chefs de transmission, etc. Je veux juste les hadiths afin de me motiver à adorer Allah. Il lui a écrit un livre et il a divisé ce livre en quatre chapitres. Les mérites de la prière, les mérites du jeûne, les mérites de la sadaqa et les mérites de la vocation. Et en fait, ce hadith, c'est les mérites. Tout des hadiths de ce livre, ce sont les mérites. Et il n'y a rien de plus beau que de connaître les mérites des actions. Parce que quand tu connais les mérites des ablutions, tu ne fais plus des ablutions de la même manière. Quand tu connais les mérites de la prière, tu ne pries plus de la même manière. Les mérites des invocations, tu invoques davantage. Les mérites des sadaqas, etc. Donc le but, c'est d'étudier ce livre, Inch'Allah, afin de se motiver à cela. Donc on reprendra, Inch'Allah, au mois de janvier. Et on verra, il est fort possible que les cours soient le samedi entre le Maghrib et l'Isha. Mais Inch'Allah, on vous tiendra au courant, informé, début janvier, Inch'Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum.